Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction Louisville dans le Kentucky pour un bon bourbon et un bon épisode de Monday Night Raw. Nous sommes le 14 novembre et avec moi dans les studios pour m'accompagner pour cette analyse, j'ai évidemment l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde. Et ouais, le Kentucky, bourbon et fried chicken. Attention à tremper, à bien tremper dans le bourbon.
Oui.
Ça révèle toutes les saveurs.
C'est une expérience sensorielle qui vous attend à Louisville dans le Kentucky. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein, il faut l'avouer.
Non,
à part tremper ton bout de poulet dans ton verre de bourbon. Et ben, du coup, ce soir, il y avait du catch à Louisville. Oui. Donc tout le monde était là. Hein. J'ai regardé, tout le monde était là.
Ah, je crois qu'il y avait toute la ville qui était là. Ouais.
Une jolie arène. Et donc du joli monde et surtout Seth Rollins qui ouvre le show. Il est devenu l'homme indispensable. Il l'était peut-être déjà, mais là je crois qu'il n'y a plus de débat. Il est le visage du show rouge. Il nous souhaite la bienvenue. Il est content. D'ailleurs, tout le monde est content. Toi aussi, Giscal, t'es content. C'est notre champion US à toutes et à tous, Seth Rollins. Il remercie d'ailleurs Bobby Lashley. Il a même pas remercié Giscal. Je pensais qu'il allait te remercier. Maintenant, il remercie Bobby Lashley. Il nous rappelle, voilà, il a lancé un open challenge. Et puis, tout le monde en veut. Tout le monde en veut, en fait. Tout le monde veut du poulet de Seth Rollins. Hein? Finn Balor, il veut du poulet. Ali veut du poulet. C'est normal. Lashley veut du poulet aussi.
Et qui mange aussi beaucoup, je pense.
Oui, au fried chicken, Kentucky fried chicken, hein, ça vient de là, hein, KFC. Vous apprenez quelque chose aujourd'hui en écoutant Catch Up, on apprend des choses à chaque fois. Vous savez dorénavant d'où vient le KFC. Même Austin Theory a essayé, mais il s'est bûché. Hein, Austin Theory, on l'a bien vu, et ça a soulevé le monde incroyable des fans de catch. Hein, bon, Giscal, toi, t'avais été soulevé aussi hein, par ce cash-in. Raté.
Cachine manquée, exceptionnelle.
Que tu appelais de tes vœux. Eh oui.
J'appelais de mes vœux depuis très longtemps. Quand on parlera de Austin Theory plus tard dans l'émission, j'aurai l'occasion de revenir dessus, en effet. Mais événement. Un tournant dans la carrière d'Austin Theory, c'est sûr.
Là, Full chante que c'était stupide, le cachine de Theory. Alors, oui, c'était stupide, mais on en reparlera plus tard. En fait, c'était l'idée du siècle, la meilleure idée, la meilleure chose à faire. D'ailleurs, Seth Rollins nous dit, voilà, vous pourrez remercier Austin un petit peu plus tard. C'est le titre ultime, hein, le championnat US à Monday Night Raw. Il y a un match ce soir dans le main event, simplement, est déjà booké face à Finn Balor, mon bon Giscal. Ce sera notre main event du show rouge. À ce moment-là, je suis sûr que tu te dis, je suis impatient d'être à la fin de ce show.
Ouais, évidemment. Booking, enfin ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est, il y avait un petit côté un peu old school. Cette ouverture d'Euro avec, en mode un peu maître de cérémonie, Seth Rollins qui nous accueille, qui va parler du main event. Donc je trouve toujours assez ça sympa. Alors, on a des Euro parfois qui partent en gros bordel. D'un seul coup, on prend l'antenne et c'est le boxon. On sait pas où on est. Je sais que ça plaît pas beaucoup à Raphaël, ça qui aime bien le professionnalisme et les shows bien carrés.
Rien dépasse avec Raphaël.
Ouais,
rien
il faut dépasse. Pas que ça dépasse et tout. Là justement, il y a quelque chose d'assez à l'ancienne. C'est voilà l'intro et là pour teaser le main event. Donc il y a vraiment ce début et cette fin qui sont liés. Moi j'aime bien quand on revient un peu à des basiques comme ça. Je trouve que là c'était bien fait avec en effet Seth Rollins qui nous fait sa petite promo, qui nous vend le main event, qui nous raconte un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est un peu voilà, c'est vraiment le côté très série quoi. C'est précédemment dans Monday Night Raw. Je trouve que ce petit segment fonctionnait bien. Et puis il est pas fini ce petit segment.
Il s'est passé non, il est pas fini puisque Bobby Lashley débarque. Et il est pas content. Bobby Lashley dit que c'est lui qui a fait le sale boulot. Hein, il a transformé Theory en une punchline. Donc il a rendu Theory tout simplement. Il a facilité le travail hein, pour Seth Rollins. Et du coup, il veut son titre, il veut sa ceinture, il veut son championnat US. Alors l'autre, il lui dit, attends, t'es gentil, d'accord, je crois que la colère te monte à la tête là depuis que t'as perdu face à Brock Lesnar. C'est vrai que voilà, hein, il a perdu face à Brock Lesnar. Et l'autre, il dit, non, mais attends, c'est pas ça. Donc il commence un petit peu à faire gonfler les muscles quand soudain, l'autre mangeur de poulet, Mustafa Ali, débarque avec un arbitre. Il veut un match aussi, c'est le bordel. Ça finit en baston. Bobby est attaqué par, par Ali. Seth Rollins, il se barre. Hein. Il, comme il fait souvent, il voit souvent en arrière-plan comme ça et qui fait hop, hop, bah, bah, je vais me barrer, moi. Il a eu raison. Et puis, c'est la bagarre parce que Mustafa Ali ne veut pas lâcher. Et du coup, il y a quoi ? Eh ben, il y a match. Il y a match. Il y a quasiment un match à sens unique, hein, mon bon Giscal, où Mustafa Ali a tenté un petit retour vaguement sur la fin, mais il s'est bouffé un énorme spear. On lui a épargné l'abandon, puisqu'il s'est retrouvé, si j'ai pas de bêtises, oui, c'est ça, il s'est retrouvé endormi dans le Hurtlock. Et c'est
ouais, je sais pas ce qui est pire.
Ouais. Ouais, je sais pas, il a fait dodo. Hein, mis au lit, voilà, une bonne tisane, bien bordée, Mustafa Ali, merci, au revoir. Victoire écrasante de Bobby Lashley hein, sur Mustafa Ali et Bobby Lashley du coup qui se relance direct dans la title picture qui se fournit déjà, il y a du monde hein, autour de ce titre US, mon bon Giscal.
Ça fourmille, hein. Tu sens que bah, c'était aussi un peu l'objet hein, de cette séquence et c'est Seth Rollins c'était là pour se faire mousser et pour faire un peu mousser la ceinture, voilà, à dire bah, voilà, tout le monde est sur cette ceinture. Théorie, Lashley, Ali, mais pas que. Enfin voilà, il dit c'est le top prize, c'est la ceinture ultime du show rouge. D'une certaine manière, c'est plutôt intelligent parce que c'est vrai que bah, la Bloodline et Roman Reigns, c'est vrai, phagocyte tellement. Enfin, c'est pas le terme, mais c'est vrai qu'ils prennent tellement un peu en otage le top du top de l'affiche en apparaissant de manière très très. Très espacé, un petit peu quand ils veulent, et pas toujours à Monday Night Raw, bah parfois c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment, on en discute souvent sur le Discord, d'une absence un peu de main event. Parfois, en fait, dès que la Bloodline n'est pas là, il n'y a pas de main event, en quelque sorte. Donc c'est vrai que de pousser à fond ce côté Seth Rollins, chef de file du show rouge, avec sa ceinture qui est le prix ultime, bah c'est plutôt malin. Et donc ce segment a plutôt rempli ses objectifs à ce niveau-là, parce que voilà, on sent qu'il y a bah, tout le monde lui court un peu après. Donc c'était plutôt bien joué. Et puis bah, après il y a eu ce squash que t'as mentionné. Alors un peu partagé sur ce squash, pas tant parce que je pense que
c'était trop long.
En fait, c'est pas que c'était trop long, c'était peut-être. Alors je sais qu'on a. On a débattu un petit peu avec Ringside de ça aussi, mais j'ai trouvé ça presque trop violent pour le pauvre. Alors, je ne sais pas s'il reste des fans de Mustafa Ali dans l'Assemblée.
Ah, je pensais que t'allais dire, je ne sais pas s'il reste quelque chose de Mustafa Ali, toi, ouais, des morceaux, peut-être une cuisse ou une aile.
Exactement. C'est un peu ça là où je veux en venir, c'est que je ne sais pas s'il lui reste quelques fans, mais en tout cas, les quelques fans, je ne sais pas s'ils vont pouvoir retrouver quelque chose, parce que là, c'était. Alors, j'avais l'impression depuis quelques semaines, justement, que ce soit par le fait qu'il tourne autour un peu de la ceinture, qu'il change de look. Bon, alors, c'était pas forcément fameux, hein, avec ses petites dreads et son shirt de boxeur et tout, mais je sais pas, t'avais l'impression qu'il se réinstallait petit à petit. Il emmerdait un peu le Miz aussi. Enfin, tu le voyais un petit peu dans les backstage. T'avais l'impression qu'il se réinstallait dans la mid-card de Raw. Et alors là, j'ai trouvé qu'on a eu affaire à une sorte de sacrifice rituel comme j'en ai pas vu depuis très très longtemps. Je crois que j'ai pas eu une impression de squash aussi violente que celle-ci depuis une éternité, parce qu'il y a une différence, je trouve, entre les squashs de, tu vois, qu'on voit de Homos, de Strowman, ou même de Lashley par le passé, hein, quand il ramène deux ou trois ou quatre, parfois, jobbers locaux pour faire la pâtée. Et là, bon, bah, c'est du sens unique et il n'y a pas de débat. Mais des squashs à ce point-là, 100% à sens unique sur des mecs qui sont de la mid-card, tu vois, c'est une tête un peu connue, quoi, Mustafa Ali. J'ai trouvé que, je sais pas, il y avait une impression un peu à mi-match, je me disais, mais pouah, enfin, c'est limite, tu te demandais ce que Mustafa Ali faisait là, en fait. Tu te dis, mais en fait, ce gars-là n'a pas sa place, quoi. Enfin, il se faisait tellement rouster. Et en plus, le truc, c'est que ça avait commencé avant le match, c'est-à-dire que Ali était arrivé, il avait ramené sa poire, il s'était fait virer deux fois du ring comme un malpropre par Lashley. Qui magnanime lui dit, bon écoute, vas-y, tu veux vraiment te faire botter le cul, bah je vais te botter le cul, sonner la cloche. Et alors là, il le secoue, il l'envoie partout,
vraiment le cul.
Il lui botte le cul. Non mais, il y avait même, je pense, parce que ça a duré 4 minutes, je crois en effet, t'as dit, il y a eu un micro comeback à genre à 3 minutes 30 ou un truc comme ça, peut-être à 4 minutes. Il y a un moment, tu te demandais même s'il allait avoir un semblant d'offensive, Mustafa Ali, tellement c'était gênant. Et tu vois, c'est des trucs où je comprends que Bobby Lashley, c'est génial, voilà, il faut que Bobby Lashley ne doit pas transpirer contre des mecs comme ça, c'est très bien. Mais c'était peut-être presque trop, parce que concrètement là, Mustafa Ali, je me dis après ça, mais je juste disparais, casse-toi, parce que enfin là, C'est pas possible.
Attends, il a dû manger les pilons de quelqu'un qu'il fallait pas. C'est pas possible, toi, les pilons.
Ah ouais, non, mais il s'est fait tellement laminer que ouais, c'est un peu dur.
C'est vrai que c'est étrange, hein, ce changement de dynamique là deux semaines.
Ça reste relativement anecdotique parce que bon, c'est Mustafa Ali, mais voilà, encore une fois, je pense à ces quelques petits fans qui restaient. Bon, bah écoutez,
oui, l'espoir de le voir éventuellement dans une espèce de Fatal Four Way parce que t'as plein de contenders.
Ah,
et
oui,
tout,
non,
mais là...
ah, c'est terminé, finito.
bon. Ouais, c'était peut-être. Oui, effectivement, bah écoute, il a cherché la bagarre, il a eu la bagarre, il s'est fait bien botter les fesses. Mais après, je trouvais ça. J'aimais bien quand même ce côté moustique qui voulait pas lâcher, tu sais, ça c'était marrant.
Ouais, mais c'est résilient, mais c'est-à-dire que. Tu vois, généralement, dans ces cas-là de David contre Goliath, il y a toujours une sorte de petite phase de comeback, tu sais, essayer de.
Mais bon, voilà.
Il n'y a rien eu. Après, voilà, l'objectif était de faire qu'il n'y ait pas de comeback, que Bobby Lashley est trop fort, mais peut-être qu'il y avait peut-être un autre mec à mettre, alors je sais pas. Mais bon, on ne saura jamais, de toute façon, puisque Mustafa Ali a été rayé de la carte lundi. Donc...
alors, par contre, ce qu'on sait, mon bon Giscard, c'est comment. Quel est le surnom de Maya Yim?
Michin.
Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, parce qu'attends, au début, alors la séquence backstage, AJ Styles et toute sa clique, là, voilà, ils se la pètent, voilà, maintenant ils sont 4 contre 4, voilà, ils sont prêts à affronter le Judgment Day, et là, t'as Luke Gallows qui fait « Ah, c'est moi qui ai ramené Maya Yim, parce que moi, les femmes, ça me connaît, et tout. » Donc, Maya Yim, elle le regarde dans l'air, « Qu'est-ce qu'il fait, là, mec, on est en 2022, attention à tes... » Attention à ce que tu dis. Puis il avait commencé à lui dire ouais, bah non, elle s'appelle Michi, l'autre il fait. Puis ils font leur tout de suite. Il dit c'est quoi Michi ouais. Ça veut dire qu'elle est en colère, quoi. Qu'elle est la folle, quoi. La folle en colère en coréen et qu'elle adore ce surnom.
C'est un peu chelou. T'sais, on avait déjà parlé les semaines passées du côté de la dynamique un peu plus qu'implicite, hein, vraiment, voire borderline crado quand même entre Rhea Ripley et Dominique Mysterio avec tous les sous-entendus, les caresses, les machins et tout. Là, je trouve qu'il y avait aussi quand même un peu, je sais pas, ça faisait bizarre, ça faisait un peu malsain, hein, les deux vieux crado, enfin, tu sais, le groupe de trois briscards avec cette nana qui débarque de nulle part, je sais pas, peut-être j'ai l'esprit tordu, j'en sais rien, mais je trouvais que c'était la dynamique était également un petit peu chelou, mais bon.
Écoute, tu lui trouves un surnom un peu chelou, enfin, ouais, c'est un peu bizarre. Toi, on va sur partie dans le van, toi, les mecs, ils voyagent tous les quatre en van. On doit pas sortir très bon là-dedans. Attends, je sais pas trop ce qui se passe, mais
c'est un groupe un peu libertin, je ne sais pas.
Ouais, c'est des rivalités un peu cracra, très sexuellement chargées, quoi. Hein, des déviances et des comportements sexuels un peu douteux qui sont. Bah, ils sont là pour faire bouger la bourgeoisie, toi, pour choquer.
Okay, c'est ça, voilà, exactement.
Et voilà, Giscard,
je me chatouillais un peu.
Bah, ouais, très choqué, Giscard.
C'est mon côté vierge effarouché, là, j'étais complètement effarouché, justement.
Ouais. Bon, après, voilà, ça se barre. Et puis, on a un match derrière dans la division féminine avec, justement, tu en as parlé, Rhea Ripley, qui a affronté une revenante, non, c'est pas Rhea Ripley, pardon, Maya Yim, et Rhea Ripley après arrive, mais Maya Yim, du coup, bah, pour montrer qu'elle mérite ce surnom, affronte Tamina, voilà, la revenante, Tamina, dans un match anecdotique avec le Armbreaker à la fin pour le compte de 3, 1, 2, 3, la victoire, et pendant ce temps, Rhea Ripley était venue avec Domino, Domino Pizza. On enregistre à l'heure du déjeuner pour être tout à fait. Voilà, et moi j'ai j'ai un petit bourguignon qui m'attend, je n'en peux plus. Donc, Rhea Ripley qui était aux abords du ring avec Dominique Mysterio, alias Domino, c'est son surnom que je lui ai donné.
Ça me déplaît pas. On va peut-être continuer. Ouais, peut-être continuer comme
alors,
ça.
Alors, Michine et Domino. Oh la vache, c'est vrai que c'est un peu Rhea Ripley. L'autre, il lui fait, bah vas-y, viens, si tu veux la bagarre, viens. Et puis, elle vient pas, en fait. Elle vient pas, elle est pas venue à Rhea Ripley.
Non, écoute,
ça avance. Concision, voilà. Les femmes à l'honneur.
Important, non, mais écoute, c'est vrai que c'est quelque chose que je reproche quand même assez régulièrement, c'est ces arrivées qui sont... qui sont présentées, que ce soit en storyline ou par les commentateurs, un petit peu comme des, bah, des petites bombinettes dans le monde de la WWE. D'un seul coup, tu vois Mia Yim arriver, tu te dis waouh, t'as l'impression que t'es presque obligé de te dire, il t'impose cette décision qui est de waouh, putain, mais les forces sont rééquilibrées, Mia Yim est arrivée, c'est la folie. Comment, ouais, putain, les cartes sont toutes complètement rebattues, c'est fantastique, alors que globalement personne ne sait qui c'est, donc c'est vrai que bon, c'est le genre de petit segment qui a au moins le mérite de, bah, de l'installer un peu plus, parce que jusqu'ici voilà, j'avais trouvé que le fait de rééquilibrer la balance avec encore une nouvelle arrivée d'une protégée, tout ça, tu dis bon, ok, bon bah voilà, là au moins ils lui ont fait battre sans coup férir une vétéran, donc ça permet de l'imposer un petit peu aux yeux du public comme étant quelqu'un sur qui compter, même si bon, j'ai pas trouvé le match forcément super impressionnant, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus marquant, mais bon, écoute, ouais. C'est déjà ça, et bah, voyons la suite maintenant.
Ouais, ouais, on verra Mia Yim plus tard, dans une autre séquence que je garde pour aller avec le match qui s'ensuit. Matt Riddle, toujours là à faire du bongo, c'est la fête. Vamos a la playa, Kitty Kelly, donc notre intervieweuse l'arrête, il dit bah voilà... est-ce que tu as des news de Elias? Bah, Elias, il est occupé, il est en tournée, hein, il répète, il fait des albums, voilà, c'est une rockstar, il y a du merchandising à gérer, il n'y a pas de soucis. Et Gable et Otis, proche, un petit chouchou là, et qui lui disent, ils demandent de se la fermer, et puis on a un petit battle, il y a du bro et du chouche, et du bon qui va à gauche, à droite. Et Gable annonce tout simplement qu'il va martyriser Riddle entre les cordes, de la même manière qu'Otis s'était chargé de son poteau et la IAS. On a un match Chad Gable versus Matt Riddle, un match plutôt technique, hein, entre les deux hommes. C'était un bon match. À la fin, on a en plus la victoire en filou de Chad Gable, puisqu'il fait un petit backslide là pour faire le tomber avec l'aide de son élève préféré, Otis, qui lui maintenait les chevilles sur la corde. 1, 2, 3, victoire de Chad Gable après un match très 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 technique avec pas mal d'offenses là, et deux athlètes qui s'occupent tranquille dans la mid-card. C'est du comedy wrestling bien écrit, tout ça. On rigole bien et il y a du bon catch.
Ah bah c'est ça, mais de toute façon, c'est la grande spécialité de Chad Gable. Hein. C'est vrai que d'allier la technique et la comédie, de toute façon, moi, je trouve que c'est vraiment un catcheur exceptionnel, Chad Gable, justement pour ça, parce qu'il a ce talent de... Tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, quasiment à n'importe quel endroit de la carte, tu sais qu'il va trouver le moyen de te divertir. C'est vraiment un mec, j'adore. Je dis pas ça parce qu'on l'avait rencontré en plus à la Nouvelle-Orléans. Hein, mais c'est...
Oh, il était en famille et tout. Il avait gentiment accepté de faire une petite photo. Ouais. Il nous a déjà mis dans son cœur à ce moment-là.
Je pense qu'il nous avait dans son cœur, exactement. Non, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment très, très fan de ce qu'ils font. La Alpha Academy, Otis, pareil, a vraiment trouvé son personnage. Leur dynamique en backstage sont énormes. J'adore. Enfin, à chaque fois qu'ils apparaissent sur l'écran, je sais qu'on va rigoler. En plus, on va pas juste rigoler, c'est en plus, tu sais qu'on va avoir du bon catch parce que Chad Gable, il est utilisé partout à chaque fois pour faire justement mettre du liant un peu dans l'émission, proposer des bons matchs de mid-card, de milieu de show. Et y a toujours, dans ces matchs qui sont toujours d'une 10-12 de minutes, il y a toujours un petit bonbon, une petite sucrerie, tu sais, qui va toujours te mettre au milieu un super enchaînement ou alors un move de ouf. Et ça avait été le cas d'ailleurs, parce qu'il a fait une sorte de DDT driver à un moment là sur Matt Riddle, qui était super stylé, qui a fait une jolie near-fall. Cool, bah écoute, moi je suis pas mécontent en plus de le voir glaner une petite victoire, parce que souvent c'était souvent un petit peu en vain toutes ces interactions, et bon bah il collectionne un peu les défaites. Bon, c'est son rôle, hein. Mais je trouve que c'est cool de temps en temps de lui filer un petit truc pour montrer que ça reste quand même un petit duo qui est crédible. Donc c'est pas mal. Et puis de toute façon, Matt Riddle en ce moment n'a pas l'air très intéressé par le catch de manière générale, parce que je dois t'avouer que je suis un peu blasé là de son angle bongo bongo là depuis 2-3 semaines. Le Matt Riddle d'il y a 2-3 mois est quand même bien loin, celui qui courait après Roman Reigns pour venger Randy Orton, et puis qui essayait de retrouver par tous les moyens le chemin du main event avec le Money in the Bank, et puis ensuite qui sait farcir Seth Rollins dans des super matchs. Et d'un seul coup, t'as l'impression que, je sais pas, peut-être qu'il avait les idées claires pendant 3 mois, et puis là, il a retrouvé son fournisseur officiel d'herbe, et puis finalement, bah voilà, il retourne végéter comme un benet.
C'est ça de traîner avec une rockstar, bah voilà, hein, tu sais, bah
ouais,
c'est ce qui
ouais,
se
voilà,
passe.
C'est
hein,
ça, il a retrouvé les substances, là. Mm-hmm. Donc il a retrouvé un peu les atours du mec qui faisait que, bah en fait, en début d'année, j'ai jamais vraiment aimé ce gars-là. Mais je préfère quand il est focus et qu'il arrive à mettre un peu son personnage goofy au service de vraiment d'un objectif, plutôt que de le voir faire le clown en backstage. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, prends ta défaite, voilà, bien fait pour ta gueule, et vive Chad Gable.
Ouais, vive Chad Gable. Ouais, je te rejoins, c'est vrai que ce Matt Riddle là, il est revenu à la maison, quoi, si tu veux. Il est revenu dans sa chambre, dans son basement, quoi, chez sa
Exactement.
Mère, retourné chez sa mère. Après avoir pensé que voilà il avait qu'il allait changer, ben non, il revient à ses premiers amours. Bon, c'est un peu sans programme, hein. Matt Riddle,
ouais.
Donc, tant que Randy Orton n'est pas de retour, il va rien se passer. Bon, bah écoute, ça occupe. C'est marrant de dire ça entre temps, mais c'est presque dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça occupe Chad Gable en attendant.
Enfin, oui, exactement.
Bon, voilà. Mais belle victoire pour Chad Gable, tu avais raison de le dire. Moi, ça m'a surpris et en bien. Je m'attendais à une petite défaite trop nord classique, toi. Et en fait, bah non, comme tu l'as dit. Gable et Otis, c'est un duo de filou et il remporte. Alors, il y a une petite séquence avec mon catcheur préféré, évidemment, de tous les temps, Baron Corbin, qui s'est allé sur 2-3 séquences. Il est avec JBL, ils sont en train de jouer au poker dans une arrière-salle. Et vas-y, que ça fume des cigares et que ça boit du bourbon. Même si, bon, forcément, c'est pas le meilleur whisky, hein, le whisky du Kentucky. C'est même pas buvable, si t'écoutes JBL.
Non,
bref, c'est dégueulasse.
Il a raison.
Et Tozawa débarque, après ils ont éliminé un gars, ils se sont moqués d'un pauvre type là, qui était un gros naze, ils l'ont déplumé, et Tozawa débarque, et Tozawa il met ses grosses lunettes, et Tozawa finalement, même si c'est sa première partie, bah, Tozawa il a la chance du débutant, puisqu'il il remporte toute la mise, et à la fin, on dit bah voilà, vas-y continue, allez, all-in, enfin voilà, ça chauffe un petit peu, et l'autre il dit bah non, moi ce que je veux c'est un match, et donc on a eu un Baron Corbin, nous sommes dans 2002, on a un Baron Corbin versus Akira Tozawa, Tozawa qui a... Alors, écoute, on a vu tout l'étendue, l'offensive, le moveset de Tozawa là ce soir. Hein.
Ah c'est vrai, écoute, hein, il en a profité, hein.
il nous a tout fait, il a même commencé à sortir des Shining Wizards sur Baron Corbin qui a eu du mal à se démêler de ce vilain petit moustique, une fois de plus, encore un petit qui court dans tous les sens, et c'est ça, il a passé 3 ans au dojo des ninjas, là. Tozawa, 24-7, ça fait travailler le cardio, hein, de courir après un titre comme ça, et du coup, il était au taquet, il se prépare pour un crossbody, puis la Corbin, il l'attrape, puis il fait un end of days, et puis c'est terminé, 1-2-3, quoi, et puis victoire du baron qui retrouve, qui a perdu beaucoup d'argent, mais qui a retrouvé le sourire.
Eh oui. Oui, c'est ça. Écoute, je sais pas, bah toi, vu que c'est ton catcheur préféré, Baron Corbin, moi c'est vrai que je l'aime beaucoup, Baron Corbin aussi, je suis un grand fan du Baron. Je sais pas ce que t'en penses, moi je cherche toujours le sens de cette association en fait avec JBL, j'ai pas encore saisi vraiment le concept, et c'est pas cette semaine qui m'a aidé vraiment à le saisir.
Non, cette semaine, c'était pas fait pour.
Ouais, j'ai l'impression. En fait, je comprends pas parce que JBL, a priori, si tu le colles à quelqu'un, c'est pour assurer les promos, l'expérience, la hit, des trucs comme ça, quoi. Je trouve que Baron Corbin, en tout cas, a prouvé déjà qu'il a pas du tout besoin de ce genre d'association. Donc déjà, de facto, en fait, je comprends pas le truc. Et en plus, moi j'adore hein, la comédie, les segments un peu loufoques et tout. Là, mais j'aime bien quand ça sert un petit peu quelque chose. C'est-à-dire que j'aime bien quand éventuellement ça sert à poser une gimmick, ça sert peut-être à développer des petits storylines de low card. Mais si c'est juste un truc, en fait, j'ai pas compris l'objectif cette semaine. Je situe pas. À part, il passe l'association JBL, voilà, c'est censé être un mania des affaires, un mec super malin qui connaît tout business sur le bout des doigts, un grand filou, qui prend Baron Corbin, qui lui-même est un plutôt plutôt un mec qui avait jamais été présenté comme un grand débile, je trouve. Donc c'est censé être une association voilà qui est business, qui est censé le propulser un peu vers les sommets. Et là, cette semaine, en fait, je sais pas, sous couvert de comédie et de légèreté, on les fait passer pour des énormes crétins, tout ça pour, pendant plusieurs segments en plus, hein, pendant trois vignettes backstage, pour booker un match dont on n'a rien à foutre, pendant lequel il passe pour un débilos, parce qu'il se fait quand même un petit peu chahuter par le fond du panier, quoi. Et donc, certes, il gagne derrière, et donc, voilà, bon, on s'en souviendra pas la semaine prochaine, mais... c'est pas une raison, je trouve, pour enfin voilà, pour dire que je trouve que c'est un peu naze ces trucs là et je saisis pas. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein d'autres mecs dans le roster qui gagneraient à être associés à JBL et presque je trouve que ça le dessert un peu Baron Corbin. Enfin, c'est pas fantastique, quoi.
Bah, les deux forces s'annulent en fait. Ouais. Hein, les deux forces s'annulent. Et c'est amusant parce que en fait c'est très naturel que JBL s'entiche d'un mec comme Baron Corbin parce que Baron Corbin représente un petit peu effectivement cette attitude era, tout ce qui plaît à JBL, même si dans la vraie vie Baron Corbin c'est un chic type et c'est sûrement pas un gars horrible comme l'était JBL, toi. Mais dans ce qu'est le personnage, voilà, les deux ça colle.
Ça peut coller.
Mais après, en termes de est-ce que ça sert pour la construction ou du personnage, l'évolution d'un personnage narrativement, ou l'équilibre des forces et tout, c'est vrai que, bah non, tu l'as dit, c'est deux mecs qui savent tenir un micro. Alors certes, JBL nous a proposé des super promos ces dernières semaines, mais au bénéfice d'un mec qui sait déjà lui faire des promos et se faire huer. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de huées aujourd'hui pour Baron Corbin que... Voilà, je suis pas sûr qu'on aura plus dans 3 mois de JBL, toi. Donc c'est vrai que c'est cool parce qu'au début tu dis ah bah si mettre JBL c'est parce qu'ils vont lui proposer un programme intéressant pour notre ami le Baron et le relancer sur une grosse rivalité ou une grosse storyline, pourquoi pas aller vers le titre. Là aujourd'hui on n'a pas eu ça, donc ouais, on sait pas trop ce qui va se passer. J'espère qu'ils vont rapidement trouver un angle, une storyline, quelque chose vraiment pour prouver l'intérêt d'avoir mis JBL dans les pattes du Baron.
Je sais pas ce qu'il cherche. En tout cas, cette semaine, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à faire. Et voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien, même sur les segments vraiment les plus légers, je trouve que c'est quand même sympa qu'il y ait un minimum de direction, quoi.
Bon, on va enchaîner avec une autre séquence que je sais tu n'as pas kiffé. Ah. Et quand je vois le résumé, je suis oh là 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 là, c'est pas possible. Je vais essayer d'être court parce que franchement, c'était d'une longueur et c'était l'asphyxie un petit peu, hein. Il faut l'avouer. Quand bien même je trouve que cette rivalité, il y a des bonnes idées et qu'on essaye d'en faire quelque chose, mais alors là j'avoue que c'était très long, ça je veux bien te l'accorder. Alors c'est Gargano et Le Miz qui sont là ensemble pour un Miz TV très spécial, puisque Le Miz ce soir est invité du Miz TV. C'est Byron Saxon qui est notre intervieweur. Alors Le Miz il fait sa tête d'innocent, il a les yeux qui pleurent, le petit gilet, il est bien sapé. Voilà, il vient ouvrir son cœur tout simplement ce soir pour prouver son innocence dans toute cette histoire un petit peu lugubre d'impayés et de deal qui a mal tourné, qui expliquerait pourquoi Dexter Lumis en a autant après le A-lister. Alors, tu demandes est-ce qu'il était désolé. Écoute, j'écris une petite. Il a tout préparé, alors il y a une petite déclaration, une petite lecture à nous faire. Il regrette d'avoir payé Dexter Lumis. C'était seulement de par pure empathie. Est-ce que c'est trop demandé? Essaye de me comprendre. Il y a 18 ans, ça fait 18 ans que je suis là, jamais été blessé. Alors, il nous ressort un petit peu aussi, ça te fait rengaine, j'ai pas très bien compris d'ailleurs. Jamais pris congé. Il a cru que c'était Daniel Bryan ou je sais pas quoi en face de lui, il s'est retrouvé là-dedans. Voilà, on m'a jamais consolé, on m'a jamais mis une petite tape dans le dos pour me dire oh, écoute, tu fais du bon boulot, t'es un chic type. Alors du coup, moi j'ai pensé, j'ai vu Dexter Lumis, je lui ai proposé un job. Donc il dit c'est lui qui lui a proposé le boulot. Mais Dexter Lumis, on voulait encore plus. Tu donnes ci, tu veux ça, hein, tu donnes ta main, tu veux te bouffer le bras. Et du coup, j'ai essayé d'arrêter cette histoire. C'était une relation toxique, hein, dans laquelle il s'était retrouvé finalement. Et essayer de régler ça tout seul, quoi. Et il a menti, c'était parce que c'est son côté acteur, hein, Giscard. Il nous a un peu embobiné parce que c'est comme à Hollywood, il faut raconter de l'histoire, etc. Donc, il est, dans le fond, il est honnête. En apparence, c'est vrai, il ne l'est pas. Mais dans le fond, il est honnête. Donc, est-ce que c'est pas
vrai,
ça la vraie honnêteté?
Vrai movie star. Ouais, c'est ça.
Ouais, ça, la vraie honnêteté, peut-être. C'est un père dévoué, etc., etc. Et là, la musique de Johnny Gargano débarque. Alors, les 10 fameuses personnes se lèvent, hein, comme vous l'avez dit dans le Discord. Il y a 10 personnes qui se lèvent quand Johnny Gargano débarque. Et Gargano, il dit, oh, écoute, en fait, tu racontes des conneries. T'es en vacances. J'ai vu l'Instagram de ta femme. Tu racontes des conneries. T'as arrêté de payer Dexter Loomis. Ça commence à l'accuser. L'autre, il dit, mais attends, t'étais où, toi pendant que moi, j'étais là, à gérer Dexter. Il y a des chants Johnny Wrestling qui, 10 personnes chantent Johnny Wrestling. Ouais, ça charrie sur les codes vestimentaires. L'autre, il dit, je suis un bon gars. Je suis désolé, est-ce qu'on peut passer à autre chose Et Gargano lui dit, paye. Rends l'argent et puis ça va bien se passer. Et là, il dit, écoute, ça va se terminer à Raw cette histoire, dans un match, Miz versus Dexter Loomis. Et si Loomis gagne, il a un contrat et tu rembourses son fric. Et puis, il n'y a même pas de contrepartie en fait. S'il gagne, c'est complètement con.
Là, on ne sait pas, on s'en fout. Ouais.
Et puis Miz, le caméraman qui était derrière se dévoile et sous la capuche noire, c'était Dexter Loomis et Miz s'enfuit.
Eh oui, parce que je pense que dans leur checklist de toutes les apparitions de Dexter Loomis, il devait en rester encore une peut-être sur la liste qui n'avait pas été faite. Donc
on n'a pas fait le caméraman.
on n'a pas fait le caméraman. Ouais, bah écoute, on va finir par y arriver, hein. On va finir par y arriver. C'est un peu long. En fait, tout est long dans cette histoire. Ce segment était long, mais l'histoire est longue, en fait. Moi, j'avoue... Alors, c'est vrai que, voilà, pour ceux qui sont sur le Discord, venez sur le Discord, c'est sympa, on se marre bien, on discute et tout, des émissions. C'est vrai que j'en ai fait un peu une affaire personnelle de cette storyline.
Un délit de sale gueule, quand même. Attention.
Un délit de sale gueule, je sais pas. Peut-être que je me prends trop la tête, j'en sais rien, c'est possible et tout. C'est vrai que... On s'en fout un peu. C'est de la low-card. Qu'est-ce que ça peut bien faire, mais en fait je trouve que c'est un peu symptomatique de ces histoires de la WWE qui alors on le saura jamais, hein, ça se trouve je fais un procès d'intention, mais c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment ce genre d'histoire où tu te dis, mais en fait les gars ils savent pas ce qu'ils veulent faire, tu vois, genre ils se lancent dans un truc, ils savent pas, et ils brodent, ils rebondissent, ils essayent de se rattraper aux branches, ils se disent, ah tiens, en fait ça c'est une bonne idée, on va peut-être partir là-dessus, et en fait on se retrouve 2 mois plus tard avec maintenant, une situation où on était parti d'un gars qui sorte de... C'était marrant, c'était mystérieux, des trucs un peu subtils, des, je sais pas si tu te souviens, des voitures qui se crachaient en backstage, mais derrière Triple H, en arrière-plan, mal filmé, ou des flics qui passaient en courant dans les couloirs, tu sais pas trop, tu sentais qu'il y avait une petite force, un mec qui foutait le chaos dans les coulisses derrière. Et on se retrouve 3 mois plus tard, après 12 000 running gags divers et variés de la même chose, à finalement se dire, ah ok, en fait, le mec, on le connaît pas, on le connaît toujours pas, on sait pas ce qu'il veut, enfin on sait pas qui il est, on l'a jamais vu catcher et tout. Ah, il s'est pas fait payer sa thune par le Miz. Ah bah putain, ah ouais, c'est la merde. Ah bah non, il faut le venger, quoi. Bah, il faut le venger, parce qu'en plus on est tellement investi émotionnellement dans le gars que, bah attends, c'est pas possible, il faut le payer, quoi. C'est quand même super passionnant. Et Johnny Gargano, on sait toujours... On sait pas ce qu'il fout là, lui, on sait pas. Et, de toute façon, depuis qu'il est arrivé à WWE, enfin, à Raw, on sait pas ce qu'il fout là, grosso modo, hein, parce qu'il a teasé un semblant de vraie histoire avec Austin Theory, qui a été expédié en 2 temps 3 mouvements, en 2 semaines, avec un match qui était censé quand même être un petit événement entre les deux, qui a été gagné et puis terminé bonsoir, ils se sont plus jamais reparlés. Et donc maintenant, il est là, dans cette histoire, il tourne autour, mais il sert à rien. On sait pas ce qu'il veut non plus, d'ailleurs, lui. On sait pas ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il souffle dans le sifflet, comme ils disent aux États-Unis? Pourquoi est-ce que c'est le whistleblower de cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il casse les burnes aux mises comme ça? On le saura peut-être jamais. Et peut-être qu'on le saura dans un mois à ce rythme-là. Tu vois, peut-être que ça va. Mais au final, j'ai presque envie de dire, on s'en fiche aussi un peu, quoi. Enfin, mais en fait, tout repose sur le talent du mise, je trouve, dans cette histoire. C'est vraiment, tu interchanges le mise avec quelqu'un d'autre, il y a plus rien. Enfin, vraiment, il se passe plus rien. Et je trouve que voilà, c'est un truc qui prend énormément de temps d'antenne, de la même manière que je suis en train d'en prendre énormément pour pas grand chose et pour quasiment rien. Et alors que évidemment c'est comme dans plein d'histoires, c'est pour ça que je dis que c'est assez symptomatique. Il y a plein de storylines de low card, de mid card à la WWE qui pourraient être stylées, tu vois, genre qui pourraient être sympas, qui pourraient nous embarquer un peu dans des trucs originaux. Mais ils se prennent la tête, ils tournent autour du pot pendant 107 ans, ils se complexifient la vie pour des trucs. C'est comme il y a 3-4 semaines quand il y a eu la DX qui est venue, et d'un seul coup ils ont ajouté une stipu pour dire bah, ah, vous allez avoir un match, et si Dexter Lumis il gagne, il aura un contrat. On s'en fout, juste battez-vous, manifestement vous avez un problème, genre battez-vous, tu vois, genre, et puis expliquez-nous c'est quoi son problème. Et juste cognez-vous sur la tronche, quoi. C'est pas la peine de mettre un contrat. Le gars, il s'infiltre dans l'arène depuis 3 mois, il kidnappe des gens, il commet des délits qui sont pénalement répréhensibles, et genre, on veut lui offrir un combat s'il finit par battre le Miz. Enfin, un contrat, pardon. Donc, enfin, bref, voilà. Et bon. Alors que cette histoire pourrait être fun, hein. Moi, j'ai trouvé que la partition du Miz, elle était rigolote, hein. Il y a un côté très pastiche de star hollywoodienne qui maîtrise à merveille, hein, ce côté allégorie de la star hollywoodienne déconnectée du monde réel, tellement dans sa tour d'ivoire que, tu sais, elle a envie de se piquer avec une aiguille, de se créer des problèmes un peu pour se sentir vivant et se rapprocher un petit peu des petits sujets du peuple. Il se crée un stalker pour, voilà, finalement, qu'on pense un peu à lui. Je trouve qu'il y a un côté psychologique qui est intéressant. C'est une caricature un petit peu de la movie star hollywoodienne qui est en quête de sens et qui est complètement hors sol, quoi. Je trouve que ça pourrait être assez rigolo, mais
ouais, qui a voilà, besoin qu'on parle de lui. Si on parle pas de lui pendant 3 semaines, c'est qu'il n'existe plus. Alors
et voilà, mais c'est hashtag, en fait, Donc évidemment, le Miz est excellent, et dès que tu lui files un texte avec son petit cardigan et tout, et ce faux communiqué de presse qui est typique des stars qui, dès qu'ils sont pris la main dans le sac sur un truc, bah voilà, ils se sentent obligés de faire un communiqué foireux. Et donc tout ça peut être assez rigolo, quoi. Mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est de la branlette qui dure depuis 3 mois. Et au final, c'est dommage parce que le match va, je suis quasiment sûr, voilà, le match va se dérouler dans une indifférence quasiment totale. Écoute, il aura son contrat. Et peut-être qu'à ce moment-là, on saura enfin qui est ce personnage. Mais voilà. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu presque l'intérêt qu'il aurait pu avoir au début de savoir c'est qui ce type, quoi, finalement, qui en a après le Miz et pourquoi il en a après lui. Et finalement, tu as raison, ils ont tiré ça très 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 en longueur avec des retournements de situation et tout. Alors, dans l'intention, c'est très bien, mais comme tu l'as dit, là, ça occupe beaucoup beaucoup de temps, et c'est vrai que Miz porte tout sur ses épaules,
parce
que
les deux
autres, Dexter Lumis, on n'en sait toujours pas plus sur lui. Et c'est vrai qu'on demande beaucoup, hein, spectateur. On demande de s'attacher à un mec qui connaît pas et qui en fait est un criminel.
Quelles sont concrètement nos raisons de supporter Dexter Lumis dans quelques semaines, je sais pas quand est-ce que sera le match, mais quelles sont nos raisons concrètes, hormis le fait qu'on lui doit du pognon et que le Miz est un heel formidable, donc bon bah forcément on aura envie de le voir perdre, quoi.
Ouais. Bah c'est amusant d'ailleurs parce que bah évidemment Dexter Lumis, il a son nom de la série de personnages Dexter. L'intérêt de cette série là, c'est que il te montre un mec qui commet justement des crimes comme tu dis pénalement répréhensibles, comme tu dis, parce qu'il tue des gens. À côté de ça, il est attachant parce qu'il voit sa vie de famille, il galère. Après voilà, il vient papa, il galère dans sa vie avec ses potes et tout. Donc tu t'attaches à ce mec et tu finis par comprendre presque l'excuser de ce qu'il fait, parce que il a des raisons, il a un passé, etc. Là, on n'a toujours pas ça. C'est ça qu'il nous faut pour ce type de personnage-là. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, comme tu as dit, on a passé beaucoup trop de temps peut-être sur cette séquence qui est beaucoup, beaucoup trop longue. Mais comme tu as dit, c'est aussi symptomatique de parfois ces bookers et ces scénaristes à WWE qui ne se facilitent pas la tâche et qui se prennent peut-être aussi pour des scénaristes d'Hollywood, hein, des fois un petit
ouais,
peu
peut-être
aussi.
Aussi.
Ouais, ouais, qui réfléchit
c'est ça le double sens. Ouais, c'est ça.
On enchaîne avec une autre storyline et surtout un autre match qui va revenir puisqu'on va revenir direction du Judgment Day. On est backstage, on a Shelton Benjamin. Benjamin, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il vient? Ben, il a perdu face à Austin Theory. C'était comment ça d'ailleurs? Ouais, passe à Austin Theory, c'était la semaine dernière, peut-être.
C'est la semaine dernière.
Ouais, c'est ça. Et là, Dominic Mysterio, il arrive, et puis il coupe le domino. La domino débarque, il coupe Benjamin, il dit ouais, t'es un gros loser, t'as connu mon père, t'as connu Rey Mysterio des Guerrero, quand ils étaient à leur pic, toi, t'es toujours là, qu'est-ce que c'est ce bordel, espèce de vieux schnock. Il dit bah attends, je vais te donner une bonne raclée, et là, t'as Damian Priest qui est à côté. Puis qui se met en travers, qui fait une tête de plus, puis qui prend sa grosse voix, calme-toi et tout, t'as un problème avec Domino, si t'as un problème avec Domino, t'as un problème avec moi. Et puis t'as l'autre Domino derrière, le petit Domino. Parce que quand t'as un petit
Domino,
c'est celui qui sautille, qui se cache, qui lance des pics, fait ah oh ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'as des problèmes, toi, ouais, t'es. Ah, c'était génial. Là, Dominique nous offre un nouveau volet dans ce
ah ouais.
personnage. Là, ça, c'est le Dominique Mysterio que j'ai envie de voir, moi.
C'est ça, c'est mon là, Domino, ça.
Ça, ouais. c'est mon Domino, là, qui se cache derrière. C'est cette paire-là avec. Avec,
ah ouais, ça
avec
Damien bien,
Priest, ça marche super ouais. bien. Il a vraiment un super coup. Il est avec maman ou avec papa. C'est avec tonton, là, tu sais, ou le grand cousin, ouais. c'est derrière. Ça cherche les ennuis. Et puis, ça a donné donc, un match Dominic versus Shelton Benjamin, accompagné de Rhea Ripley et Damien Priest. Et puis, à la fin du combat, bon, Dominic il galère un petit peu, mais à la fin du combat, il place son 619. Mais c'est bloqué, le power slam, la souplesse, Dominique qui roule, qui boule dans tous les sens, ça va pas trop. Benjamin va le rechercher par la peau des fesses, mais Damien Priest est là, il fout le bordel. Dominique en profite pour placer un roll-up, mais ça passe pas. Alors Benjamin place son ankle lock, hein, oui, ça fait 30 ans qu'il est là, donc il connaît les vieilles prises, le Shelton Benjamin. Et Rhea Ripley qui fait coucou à l'arbitre, et Damien Priest qui sauve les fesses de Dominique. C'est le bordel. Et Dominique balance Shelton Benjamin dans le coin, il lui met un DDT, le Frog Splash, 1, 2, 3, et une grosse victoire pour
et oui.
Dominique, et il le dit lui-même, qui enchaîne les victoires de prestige, là, hein. Il se positionne, Dominique, et... il est très fort ce Domino.
Et il est très fort ce Domino, c'est
il
un
les fait tous tomber.
Il les fait tous tomber, il les fait toutes et tous tomber, ouais, c'est ça. Non, mais écoute, ouais, c'est un scalp quand même prestigieux, hein, Shelton Benjamin. C'est sûr que, bon, voilà, ça reste, c'est un jobber maintenant à la WWE, mais écoute, c'est pas n'importe qui. Donc, c'est un très très bon choix d'adversaire, j'ai trouvé. Bonne petite, voilà, très efficace, cet enchaînement backstage et match derrière. Ça prend pas beaucoup de temps, mais on a plein de choses qui sont cochées avec un petit développement de personnage de ce Dominique qui transite vers un rôle de petite, un peu de peste, un peu d'enfant terrible du groupe, mais qui du coup attachant d'une certaine manière par son côté insupportable, c'est ça le paradoxe du personnage, quoi. Donc ça marche très très bien, le voir sautiller comme un personnage de cartoon derrière son bodyguard là backstage, c'était très rigolo. Pour au final déchanter parce que le mec se dit il le défie quand même, même si bon, c'était assez rigolo de voir du coup bon les mecs peuvent se booker des matchs comme ça gratos là derrière, mais bon écoute allez ça passe et puis après petit match efficace derrière victoire bien et puis il va pouvoir se la péter encore pendant 2-3 semaines avec ça, donc moi j'aime bien, voilà, j'aime bien cette dynamique. Il commence vraiment à tous trouver, ça fait un moment hein, mais ça y est là, voilà ce groupe ils trouvent chacun leur petit positionnement, leur personnage, tout commence à être bien ficelé, bien rodé, ça commence à être vraiment un vrai... Voilà, c'est un plaisir de suivre leur segment, parce que bah, ils ont leur rôle, ils ont leur personnalité, ils ont des matchs de catch qui sont sympas à regarder, donc le Judgment Day, version fun, heel stable fun de mid-card, moi j'aime beaucoup.
Ouais, j'adore, là, franchement, là, c'est... Cette séquence backstage avec Dominic qui est caché derrière la prise, franchement. Puis il avait le sourire, il était excité, je pense. Il avait l'excitation.
Ouais, ils ont dû
même...
se marrer. Hein.
Ouais, ouais, ils ont dû bien se marrer. Et puis avec Damien Priest, oh, avec sa grosse voix là qui pour la peine, ça fonctionne super bien. Et puis cette victoire là, super, là, qui va décrocher. Et puis comme tu l'as dit, on va en encore parler pendant un bon bout de temps. Et ben moi, je m'en fous, c'est exactement ce que je veux. J'aime le Judgment Day, voilà. Si on avait su qu'on a dit ça il y a 6 mois, on aurait été pris pour des fous. Un truc qui est complètement fou, C'est que Dana Brooke a perdu son titre 24/7 et qu'elle n'est pas contente. Il n'y a pas de respect, pas de respect pour tout ce que Dana Brooke a accompli hier, aujourd'hui et demain. Donc elle se retrouve avec Damage Control en Bisbee. Impossible de laisser passer ce qui s'est passé justement avec Nikki Cross qui avait jeté le titre 24/7 à côté en plus de la poubelle. Elle respecte tellement pas le titre 24/7. Je sais pas si elle a réagi à ça, mais elle devrait dire ça, toi. Je respecte tellement pas. Il méritait même pas d'être dans la poubelle, quoi. C'est ça le message que l'Écossaise devrait envoyer. Et donc, on a un match d'Anna Brooke qui veut laver son honneur et l'honneur de toute la lignée, l'héritage du titre le plus dingue de la WWE, le 24/7. Elle affronte Io Sky avec toute la clique de Damage Control, y compris Nikki Cross, hein, qui fait partie de la team pour les Survivor Series. À la fin du combat, c'est le running knee et le moonsault sur Dana Brooke. Victoire de Io Sky, 1, 2, 3 évidemment. Mais le plus important derrière, c'est que Mia Yim arrive sous le titantron pour annoncer sa réponse, hein, parce qu'elle avait été invitée à rejoindre l'équipe de Bayley pour les Survivor Series War Games. Elle a réfléchi, War Games, c'est génial, mais War Games avec Mia Yim, ce sera de l'autre côté, ce sera pas avec le Damage Control. Elle rejoint la team des babyface sans saveur, Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss. Peut-être qu'elle se dit, au moins là, je vais ressortir du lot par rapport aux trois face.
C'est la bonne stratégie.
Pas bête, pas folle. Et donc, bah, voilà, on a du coup 4 d'un côté et 4 de l'autre aussi. Hein. Il reste.
Non, parce que les heels sont 5 maintenant. Enfin, parce que c'est annoncé un peu plus tard dans l'émission, mais ça y est, elles ont trouvé leur 5e, les méchantes.
C'est qui a rejoint la 5e? C'était dans cet épisode? Rhea Ripley qui s'embrouille avec Bianca Belair, je crois. Non, c'est Rhea Ripley.
Débarque. Non, elle discute avec Damage Control. Elle vient les voir. Elle leur dit, écoute, voilà.
Le Mia Yim est de l'autre côté.
Avec Mia Yim, du coup, je suis avec vous, quoi. Ouais.
Voilà. Eh ben, écoute, il reste plus qu'un slot, donc n'hésitez pas à déposer votre candidature.
Ouais, va falloir envoyer du lourd là. Ouais. Pour sauver ce naufrage à venir. Oui.
Carrément. Mais non, mais c'est Dana Brooke. Dana Brooke va sauver le navire de la division féminine.
Ils ont fait un tellement bon boulot en plus cette semaine pour la garder un peu crédible que du coup, c'est... ça va être une candidate toute trouvée. Et ouais. Je sais plus. En fait, je suis à court de superlatifs négatifs, je sais pas, pour traiter de cette histoire. Enfin, c'est, on sait, hein, de toute façon, on savait, hein, que la finalité, pourquoi est-ce que ça dure depuis aussi longtemps, c'est parce qu'il y avait les Wargames, les Survivor Series en ligne de mire. Donc malheureusement, il fallait qu'on mange un peu notre pain noir à bouffer cette équipe de circonstances le plus longtemps possible pour justement aller jusqu'à ce PLE, parce qu'on n'a plus le droit de dire pay-per-view, ce PLE, voilà, on va peut-être, enfin, c'est, en fait, c'est peut-être que, c'est, moi, j'espère, en fait, j'attends les Wargames comme un catharsis, vraiment, une sorte de libération de tout ça, parce que je me dis, j'espère que derrière les Wargames, ça va imploser, que les heels... Les heels vont gagner, qu'elles vont se réinstaurer comme un groupe dominant et que les babyface vont imploser et que enfin peut-être Asuka, Alexa Bliss vont se souvenir qu'elles existent en tant qu'individus et qu'elles ont une âme, des objectifs, des idéaux et que peut-être qu'elles ont aussi le droit d'exister hors de juste d'être les potiches de Bianca Belair. Ce trio me sort par les trous de nez maintenant. Je n'en peux plus de les voir dès qu'elles apparaissent. Ça me rend fou. Ça me file de l'eczéma, je pense. C'est insupportable de cette paresse vraiment d'écriture depuis maintenant qu'on mange depuis 3 mois là, qui vraiment ça me gonfle. Et cette semaine, bon bah voilà, c'était encore du pilote automatique avec des choix qui voilà, encore peut-être que je suis énervé cette semaine, mais c'est vrai que il y a tout un tas de petits trucs, même insignifiants, qui je trouve sont mal faits, parce que cette victoire de Io Sky sur Dana Brooke, par exemple, ça semble rien, mais je trouve que c'est pareil, c'est mal fait, c'est mal écrit. Dana Brooke, elle nous fait ok, évidemment, on s'en fout de Dana Brooke, tu vois, c'est un peu comme Mustafa Ali, on s'en fout de Mustafa Ali, c'est pas grave. Mais Dana Brooke, c'est une nana qui est Déjà, je trouve que ce qu'on lui a fait avec sa ceinture hors kayfabe, je trouve que c'est vraiment nul. Tu vois, genre cette histoire de jeter à la poubelle la ceinture, ça va au-delà de la symbolique. J'ai pas eu l'occasion d'en parler lors de la dernière review, mais je trouve que c'est un aveu. C'est presque, je trouve, enfin, c'est assez hypocrite en fait de la part de la WWE d'écrire des segments comme ça, parce que c'est un peu, je trouve, une façon de se rendre plus cool qu'ils ne sont. En mode, ouais, regardez, on vous écoute. En fait, on sait que le 24/7, personne n'en a rien à foutre. Donc, regardez, on va faire un petit angle un peu edgy et on va lui faire perdre sa ceinture et la jeter à la poubelle et tout. Bah ouais, mais n'empêche que qui est-ce qui a investi des heures et des heures et des heures de télé et des dizaines et des centaines de clips YouTube, de tweets, de trucs Instagram sur ce titre depuis des mois et a filé en quelque sorte un petit os à ronger à tout un tas de mecs du bas du roster, tu vois, qui je suis sûr était super content d'avoir ce titre et d'en faire des trucs sur les réseaux sociaux et des petites scénettes à Raw. C'est, tu sais, pour des mecs comme ça, c'est important. Et en fait, je trouve que ça va au-delà de la storyline de le rayer de la carte d'un seul coup comme ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est pas respectueux en fait. Et moi, si j'étais Dana Brooke, franchement, je serais légitimement vénère. Et du coup, je trouvais que sa petite promo, comme quoi avant le match, qui expliquait d'une certaine manière en kayfabe que elle allait pas se faire marcher sur les pieds et tout machin. Je trouvais que c'était cool et de la voir se faire squasher derrière quasiment sans intérêt parce que Yo-Sky, elle y gagne rien à battre Dana Brooke en fait. Elle y gagne rien. Là, et Dana Brooke, elle va pas être dans l'équipe des War Games. Ça lui apporte zéro momentum à Yo-Sky de battre une low-cardeuse comme Dana Brooke.
Il aurait mieux fallu la mettre face à Nikki Cross et puis que tu ailles même pas jusqu'à la fin du match, juste les méchants
ouais,
de tabasse Dana Brooke parce qu'elle l'a
exactement.
Pas,
je vois pas quel est l'intérêt du squash à part encore plus mettre la tête dans le seau. D'une nana qui, voilà, ça sert à rien et ça n'apporte aucun momentum aux méchantes, à la limite un bon vieux beatdown comme tu dis avec
ouais.
Une Dana Brooke super vénère fired up parce que ça lui tient à cœur et que du coup elle sort un peu le match de sa vie et
ouais.
Tu sens que les heels commencent à perdre le contrôle et là boum elle lui rentre dedans, elle le défonce parce que de toute façon les wargames c'est ça, hein, c'est une histoire de groupe, c'est
et
pas
et derrière tu justifies presque aussi l'arrivée de Maya Yim qui voit ça et qui fait non mais
exactement
attendez,
exactement
moi, je suis pas d'accord avec votre c'est quoi
voilà
ça,
exactement je suis pas d'accord avec votre façon de faire, c'est quoi ce bordel de traiter des meufs comme ça? Bah écoutez, puisque vous voulez la jouer comme ça, moi je vais rejoindre la team des gentils
voilà.
et je vais légitimer ma place parce que après l'arrivée, voilà. Donc là maintenant on a traité ce sujet. Après il y a l'arrivée de Maya Yim, mais l'arrivée de Maya Yim, c'est pareil, c'est pourri. En fait, alors déjà je trouve ça super gênant de faire des trucs un peu teaser super hype sur des nanas dont tout le monde se fout. Que voilà, on a déjà parlé, Maya Yim, on s'en branle. Donc, essayer de faire une sorte d'annonce, tu vois, genre, des trucs, c'est limite s'il n'y allait pas avoir un roulement de tambour.
Oh, le
Tu
fameux
vois, avec.
compte, le fameux décompte,
Ouais,
les 60 minutes.
avec le décompte et Maya Yim qui est là,
Graphique et tout.
qui fait un faux teaser de trahison, enfin, genre, ouais, j'ai choisi mon camp et tu vois les heels qui sont toutes contentes et tout, comme si c'était fantastique d'avoir Maya Yim dans son équipe. Et en fait, ah, coup de théâtre, en fait, je suis avec les gentils. Et bon, d'ailleurs, tu nous as pas expliqué pourquoi. Et puis, on s'en fout. T'es pas une game changer, tu vois. Donc, c'est pas, arrête de te mettre en scène comme ça. En fait, tout sonne faux. Dès qu'ils veulent faire un truc, je trouve que tout est mal fait. Et je suis, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois. J'ai l'impression de me répéter. C'est vrai que je suis stupéfait de cette capacité, de ce talent presque, à tout foirer comme ça, avec les filles. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Je pense que s'ils voulaient faire pire, je sais même pas ce qu'ils pourraient faire en fait. Donc c'est voilà, encore une fois, on sort de là avec zéro momentum des deux côtés. Donc c'est un match qui n'a pris absolument aucune hype. Peut-être l'arrivée de Rhea Ripley chez les Heels est peut-être la seule bonne nouvelle. Et encore, je me dis presque, j'ai envie de te dire, mais juste reste éloigné de ce dumpster fire là, enfin de ce truc. J'ai même pas envie de te voir là-dedans. Mais bon, voilà, écoute, allez, j'arrête, mais
Non
vous
mais
savez ce que j'en pense.
t'as raison. Non mais et pourtant, toi, ça, il fallait pas grand-chose pour fixer certaines petites choses, comme on l'a dit.
Ça semble facile,
Ça
ouais,
me semble
c'est.
trop facile. Et une fois de plus, il se complique la tâche. Et surtout, une fois de plus, il y a pas cet équilibre entre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est une méga star, qui ne l'est pas, qui doit avoir le focus, qui ne doit pas l'avoir. Voilà, comme tu dis, Maya Yim, ok, c'est cool, elle est là, génial. Mais elle est déjà embarquée dans une histoire qui est suffisante, avec l'histoire avec le Judgment Day, l'histoire avec Zé aussi, voilà, elle vient faire le nombre, c'est cool. Maintenant, comment tu connectes ça, tout ça? Bah, t'avais créé quelque chose en plus. T'avais fait Dana Brooke, voilà, elle se fait passer à tabac, l'autre, ça lui plaît pas. Toi, elle a déjà vu ça se passer. Ouais, voilà, donc elle va rejoindre les autres. Ok, bah voilà, là, c'est justifié. Plutôt d'arriver et dire, bah, je vais avec les gentils. Non, c'est complètement naze. Et c'est vrai qu'on a fait durer, tirer ce truc-là pendant des mois, là, pour arriver à ce wargame. Comme si, là, ils avaient décidé, il nous faut un wargame féminin. Ok, c'est dans 3 mois, mais on a déjà, on a déjà les fils en fait. Damage Control, la Pibi en Cabellaire et puis les deux autres là qui sont avec elle parce qu'elles sont gentilles elles aussi. Ok, bah c'est bon, on a déjà nos équipes. Et puis bah pendant 3 mois il se passe rien parce que bah il faut que ça soit ces équipes là à l'arrivée. Donc c'est complètement idiot, c'est vrai, c'est très très mal écrit. Et ils font beaucoup de mal, hein, disons, féminine.
C'est dur parce que... alors voilà, dans le catch, tout va très vite. Hein. On sait qu'il y a 3-4 semaines de folie avec un super programme. Et d'un seul coup, tu te dis, ouais, c'est la folie, c'est l'âge d'or du catch. L'âge d'or du catch féminin, c'est fantastique et tout. Bon, voilà, on sait, hein, la mémoire d'un fan de catch, elle est courte. Ça peut aller très vite, mais... On passe pas nos meilleurs mois, hein, ça c'est sûr.
Bon, allez, on va passer à quelque chose qui va nous réjouir beaucoup plus.
Ouais.
Backstage, une interview. L'ancien Mr. Money in the Bank, Austin Theory, est interviewé et il nous explique que personne, on lui demande comment il sent, il lui dit personne ne comprend sous quelle pression hein, il est encore aujourd'hui. Tout le monde pense qu'il existait grâce à sa belle gueule, grâce à ses fameuses opportunités qu'on lui a soi-disant données. Mais à chaque fois, il a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Il allait au-delà de ce qu'on attendait de lui. Mais les gens le détestent toujours malgré ça, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils veulent le voir échouer. On veut voir Austin Theory échouer. Et ben, c'est ce qui s'est passé quand il a cash in son Money in the Bank. Les gens l'ont vu échouer, mais lui, il l'a pas vu comme ça. Et non, c'est pas la chute d'Austin Theory à laquelle on a assisté la semaine dernière.
Aujourd'hui, renaissance.
C'est la renaissance. Il se sent vivant plus qu'il ne s'est senti vivant depuis toujours. Finalement, et on en parlait jusqu'à pendant de plusieurs fois hein, dans ce podcast, cette mallette Money in the Bank, c'était un poids lourd, une encre pour Austin Theory. Oui. Il n'y avait aucune fin positive possible, aucun cash-in possible pour lui. Et il le dit d'ailleurs hein, dans une grosse... séquence d'écriture rétroactive, hein, cette fameuse justification qu'on n'apprécie pas forcément, et c'est un peu ce qu'on pouvait regretter la semaine dernière avec cette arrivée d'Austin Theory qui n'était pas forcément super année. Bah là, tout s'explique, hein, on est dans la tête d'Austin Theory. Voilà, cette encre-là, ce boulet, parce qu'il nous explique, et c'est vrai, Roman Reigns, bah, il est intouchable. Pendant un an, c'est pas possible. Il a essayé, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un sur la tronche. Tyson Fury, Brock Lesnar, tous les Uso, toute la Bloodline, Bobby Lashley et tout. Enfin, voilà, c'est bon. Il a essayé, il a compris. c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, direction le titre US, tout simplement. Seth Rollins a raison. C'est le visage de Monday Night Raw. Le titre US, c'est la plus grosse ceinture du moment Monday Night Raw. Donc, bah, let's go, quoi. Et s'il n'y avait pas eu encore ce couillon de Bobby, eh ben, il aurait fait le cash-in le plus incroyable de tous les temps. Ce à quoi, quand on parle de cash-in le plus incroyable de tous les temps, pop! Tu fais apparaître qui dans le Ziggler qui fait,
comme Beetlejuice.
C'était peut-être le pire cash-in de tous les temps, mais bon, c'est vrai que tu prends un petit conseil de celui qui a eu le meilleur cash-in de tous les temps.
Eh oui.
Eh oui, et aussi du mais écoute, j'ai rien à te prouver, plus d'excuses. Et ce soir, on va faire un match. Et avant de parler du match, parlons de cette promo. Écoute, Giscard, je ne sais pas si. En fait, qu'on dit. Austin Theory, à chaque fois qu'il fait une promo, on se dit ouais, mais c'est un nouveau chef-d'œuvre. Et ben là, je crois qu'on a eu encore un nouveau chef-d'œuvre.
Exactement. Ouais. Non, c'est vraiment chef kiss là. C'est quel putain masterclass cette promo, magnifique. C'est exceptionnel. Vraiment une promo énorme. Je pense qu'on se rend pas compte en fait à quel point elle est bien écrite cette promo. Alors elle est évidemment bien interprétée, mais qu'est-ce que c'est difficile de faire des. C'est une excellente promo de heel. C'est ça qui est surtout important. C'est très très dur de faire d'aussi bonnes promos de heel où on dit autant de vérité et où on raconte autant son histoire personnelle, ses difficultés, ses motivations, tout en restant détestable au possible et une petite tête de con comme ça. C'est très très fort d'arriver à faire ça et c'est vraiment des promos qui sont fondatrices hein, pour des développements de personnages. Là, je pense qu'on a vraiment assisté vraiment à un tournant. Vraiment fort et au début de quelque chose, je pense, de vraiment super pour Austin Theory qui a fini pour moi, en tout cas dans mon esprit, de confirmer qu'il a tout ce qu'il faut pour maintenant exploser. On en était déjà plus ou moins convaincu en début d'année. C'est vrai qu'il y a eu une ascension assez fulgurante, une sorte de progression presque météorique hein, du mec qui s'était transformé d'un seul coup en jeune premier un peu hésitant à une sorte de ouais cette belle gueule remplie de confiance qui commençait à sortir des matchs sur matchs de costaud avec des promos de dingue et tout. Tu te dis mais attends c'est où le sky is the limit là et d'une certaine manière ouais le plafond il se l'est pris un peu au Money in the Bank avec cette mallette qui d'un seul coup s'est transformée en boulet au pied de Austin Theory. On le savait. On l'a dit plein de fois, on s'est dit que, enfin moi c'est vrai que c'est plusieurs fois j'ai pronostiqué un cash-in raté à un PLE, je pensais que ça allait arriver, parce que ça me semblait presque l'évidence même, c'était écrit pour lui en fait de rater un cash-in, cette belle gueule super arrogante, ce rookie de l'année qui se prend pour quelqu'un d'autre et qui était destiné à se prendre une grosse tarte dans la gueule quoi, et c'était sûr, et justement il se prenait tarte sur tarte, tu t'attendais la grosse, elle venait pas. C'est peut-être le défaut de ce qui s'est passé, c'est que ça a mis trop de temps, je pense. Alors bon, ils ont largement rectifié le tir là cette semaine, mais peut-être que voilà, ça aurait pu être encore plus dingue s'ils avaient battu le fer pendant qu'il était chaud. Mais bon, voilà, on va pas réécrire l'histoire. Toujours est-il que maintenant on y est, et donc là, le fait voilà, cette grosse tarte dans la gueule, eh ben il va pouvoir repartir de zéro. Comme il l'a dit, il va pouvoir se détacher de cette histoire, de cette image de on lui a tout donné, c'est the next big thing, c'est le protégé de Vince McMahon, c'est ouais, machin.
Le futur ceci, futur cela, le il dit qu'il va être the now. Ouais, the now. Non, en plus, quand j'ai entendu ça, je fais quoi, the now encore, John Cena toi.
Ouais, non, mais il y avait clairement du jeune John Cena quand il fait ça avec sa promo avec son petit slip.
Il dit justement, il veut plus être the youngest this, the youngest ouais. That. C'était très
bien. Mais c'est super. Alors, il y a rien de révolutionnaire dans ce qu'il a dit, il y a rien d'original, mais c'est vraiment, je trouve que c'est très très bien, c'est efficace, c'est simple, c'est efficace, oui. Et voilà, c'est exactement là pour moi, on touche à ce que ça doit être une storyline et un vrai développement de personnage et tout. C'est arrêter de laisser à la libre interprétation du public ce que vous essayez soi-disant de raconter ou ce que vous raconterez peut-être dans quelques semaines parce que vous ne savez pas encore trop où vous voulez aller, donc vous êtes obligé de laisser, on va dire, le public en quelque sorte comprendre vos histoires et supposer. Et puis du coup, le jour où ça arrive, je dis « Ah bah oui, ah bah voilà, tout faisait sens et tout, machin ». On est un petit peu dans ce truc-là parce que voilà, il y a eu ces 3 mois de latence qui font que, on se disait « Mais allez-y ». Mais n'empêche que, voilà, là, c'est simple. C'est un personnage, il te donne ses motivations, il te dit ce qu'il a dans la tête, il te dit ce qu'il va faire. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à le détester? Parce que, c'est là où je dis, c'est une bonne promo de heel, hein, c'est que, il est là, il te raconte ses déboires, en quelque sorte, il te raconte cette sorte d'histoire un peu d'underdog qui va repartir plus fort que jamais, donc c'est quand même un discours très face. Mais il saupoudre ça de trucs, ouais, mais j'en ai marre que les gens, justement, ils me détestent parce que je suis le plus beau, je suis le plus fort, et tout. Enfin, ça reste quand même un petit con, quoi. Et donc, c'est parfaitement fait. Et donc maintenant, bon, la masterclass a continué derrière avec le catch, mais promo vraiment fondatrice et je pense qu'on est parti pour, ce sera pas le Summer of Theory parce que les jours se refroidissent enfin, donc on est peut-être parti pour l'hiver Theory et je suis complètement à bord.
Eh ben écoute, ça s'est réglé entre les cordes entre le détenteur du plus incroyable cash-in de tous les temps et le détenteur du plus gros cash-in foiré de tous les temps, Theory versus Ziggler. Et à la fin du match, dans un match très classique entre les deux, mais à la fin du match, Theory place 2 fois son A-Town down pour donc son finisher et il essaye même pas de faire le tomber sur Ziggler. Non, à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à tabasser un gros beatdown de colère sur Dolph Ziggler. Il l'envoie à droite, il l'envoie à gauche. Les arbitres débarquent, obligés pour les séparer. C'est le gros bordel et ce n'est pas fini. Bon, bon, Giscal, on reverra un petit peu plus tard notre théorie qui, visiblement, commence totalement à snapper, là. Il a...
Ah bah, complètement. Ah, voilà, ouais. C'est l'illustration de sa promo derrière, c'est parfait. Enfin, voilà, c'est le chapitre 2. Maintenant, on allie les actes aux paroles, ce qu'ils font souvent trop rarement. Mais là, le storytelling est parfait. Hein, on a un catcheur complètement différent, ultra focus, qui nous a sorti d'ailleurs. Enfin, je trouvais le match était super. Et puis, choix rêvé d'adversaire, parce que Ziggler, bumper devant l'éternel, un des meilleurs sellers de la compagnie. Forcément, c'est magnifique de l'avoir en face de soi quand on veut faire un gros beatdown bien crado. Donc ça a été très très visuellement très efficace et ouais, tu sors de là, tu dis ok, là il a pété un câble, c'est plus le même homme et en plus il a pas fini sa soirée, mais ouais, déjà l'impact était déjà assez fort.
Ouais, gros impact, un nouveau personnage, un nouveau chapitre qui commence pour notre Austin Theory préféré. Alors derrière l'autre match, le main event, mon beau Giscal, si je retrouve bien le fil de cette soirée,
oui.
Finn Balor versus Seth Rollins, un match pour le titre US. Donc le titre US qui était remis en jeu par le visage de Monday Night Raw, Seth Rollins face à Finn Balor du Judgment Day, qui se connaissent bien, pareil, hein, on fait référence à leur passé, hein, Finn Balor qui a gagné son titre. C'était la première star à gagner un titre de champion mondial lors de son premier match en pay-per-view. Hein, qu'il avait gagné, et puis bah, il s'était blessé, et du coup, il avait perdu face au même Seth Rollins. Donc la revanche ce soir pour le titre US. Donc Rollins qui est un petit peu plus sain et qui est un peu plus grand, et puis Finn Balor qui est filou et athlétique. On se retrouve balancé sur la table des annonceurs. Seth Rollins est un petit peu sur la défense à ce moment-là. Lizzie aussi et Judgment Day se tapent dessus autour du ring. Ça fout évidemment le gros bordel. Et alors, attends, t'as mon truc, mon résumé qui plante. Bon.
Aïe, aïe, aïe.
En train de perdre mon résumé, ça a planté l'ordinateur qui plante. C'est bon, j'arrive. Et puis Rollins qui en profite dans tout ce bordel pour placer le stomp pour la victoire sur Finn Balor. Et c'est pas fini, puisque Theory revient, il débarque et il tabasse Seth Rollins, en notamment lui donnant un bon gros coup de ceinture sur la tronche, le titre US. Dans la tronche, et donc le show se termine avec cette image incroyable de Theory qui revient et qui debout à côté d'un Rollins couché. Et Theory,
et oui,
qui a le visage sombre, déterminé, il est pas rasé.
Ouais, ça lui va bien, cette petite barbe qui est en train de se laisser pousser, je trouve. Ouais, grosse image de fin. Je sais pas, c'est marrant, tu vois. On parlait d'ailleurs, j'en parlais au début d'émission. Je trouvais qu'il y avait un feeling assez old school dans la construction de ce Raw avec l'intro maître de cérémonie, teasing du main event, et puis main event avec un titre et tout dedans à la fin. Et c'est vrai que même cette image de fin avec les crédits qui apparaissent et du coup le fade to black, voilà, avec on rend l'antenne là-dessus. Pareil, tu sais, je pense que ça fait assez longtemps qu'il n'y avait pas eu un Raw qui se terminait sur une image, pour le coup, très, très old school. Je trouve que ça fait très années 2000, ce truc, un catcher au-dessus d'un autre qui vient d'avoir un gros, gros impact. Et donc, du coup, hop, on rend l'antenne. Et puis, bah, il va falloir regarder la suite si vous voulez savoir comment ça va se passer. Ça faisait presque image un peu pré-go-home show, tu vois, pré-pay-per-view. Donc je trouvais que c'était visuellement plutôt bien exécuté, mais écoute, un gros main event, deux vieux briscards qui savent y faire, hein, donc là il n'y a pas de débat, super match qui venait bien remplir, ouais, le triptyque de bons matchs qu'on a eu avec Riddle, Gable, Theory, Ziggler et puis celui-ci. On a eu trois jolis matchs de catch cette semaine, bien longs. Et puis sympa avec ces petits overbooking à la fin. Moi j'aime bien quand ça part un peu en couille, ces main events et tout pour le titre. On croise un peu tout un tas de choses. Rollins qui s'en sort encore par le petit trou de la serrure. Et donc avec pourquoi pas du coup Finn Balor qui pourra toujours prétendre à revenir dans la danse un de ces quatre. Théorie qui se réinsère par la grande porte sur le titre US. On sait que Lashley est toujours sur le coup. Et puis on a continué à teaser un petit peu ces histoires de The OC, Judgment Day, qui sont d'une certaine manière presque, t'as envie de dire, qui sont presque plus... qui donne plus d'arguments pour un potentiel Wargames que la rivalité masculine qu'on est en train de teaser pour le Wargames aussi, qui fait très forcé. Là, au moins, ouais, on a deux groupes qui se cherchent des noises et qui se foutent sur la gueule tout le temps, partout, dès qu'ils peuvent, quoi, donc c'est plutôt cool. Donc ouais, j'ai bien aimé ce chaos final, et puis Théorie qui sort de la mêlée comme le conquérant, et qui finit cette émission avec les honneurs. Ouais.
The now has begun, mon bon Giscard. Oui. Eh oui, Austin Theory qui a marqué cet épisode de Raw de son empreinte. Du coup, c'est l'heure de partager ton top, ton flop et ta note, mon bon Giscard, pour le mot de la fin de cet épisode incroyable de Monday Night Raw à Louisville dans le Kentucky.
Eh ben écoute, allez, on va tout de suite commencer par le top, comme ça j'ai pas besoin de me répéter sur tout le bien qu'on a dit, mais c'est un maxi top de la mort, le plus gros top que vous puissiez trouver. Vous pouvez le mettre à Austin Theory cette semaine, et à la promo qu'on lui a donnée, à l'exécution de cette promo, à son attitude, son charisme et son storytelling dans le ring contre Ziggler, et cette intervention à la fin. Il n'y a rien à acheter à la poubelle, c'est génial, c'est super, je suis très très excité de voir ce que nous réserve ce nouveau chapitre pour Austin Theory. Top. Et le flop, eh ben, écoute, il y avait de quoi piocher dans ce Monday Night Raw que j'ai trouvé extrêmement inégal. Je vais donner un flop, voilà, je m'attache à des détails, mais c'est pas grave. Je vais donner un flop de circonstance à ce Dana Brooke, Io Sky et ce traitement de Dana Brooke. Si j'avais pu faire la review de la semaine dernière, je l'aurais vraiment donné un peu à cette histoire et qui s'est prolongée un peu cette semaine. Voilà, cette façon qu'ils ont eu d'écrire l'enchaînement là de Dana Brooke, Io Sky avec l'arrivée de Mia Yim et tout, je trouve que c'est vraiment une catastrophe et c'est très très hypocrite et très irrespectueux, je trouve, du rôle de Dana Brooke et d'une certaine manière, au travers d'elle, de tous les catcheurs un petit peu de low card bien établis depuis plusieurs années et qui pourraient être beaucoup mieux utilisés que ce qu'ils en font. Et je trouve que voilà, c'était vraiment nul ce qu'ils ont fait, aussi bien hors kayfabe que en kayfabe. Et donc ce sera mon flop cette semaine. Et puis ma note, écoute, j'étais parti pour donner plutôt une mauvaise note à ce Raw que j'ai trouvé. Quand tu sors d'Austin Theory et du titre US, je trouve quand même que il se passe pas grand chose, quoi. Ça me fait pas vibrer ce qui se passe à Raw. J'en retiens pas des masses de trucs.
Ça a occupé une bonne partie de l'épisode quand même, toi. Donc...
Ouais, c'est ça. Ouais, mais je trouve que c'est l'arbre un peu qui cache, cache la forêt. Et la forêt, elle est pas très très jolie.
On croise des Michines dans la forêt.
Ouais, on croise des Michines. Ouais.
Et des dominos. Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui me donnent envie de rebrancher la télé la semaine prochaine à part Austin Theory. Et je trouve que c'est un peu triste. Et puis, y a des vrais trucs qui me font me questionner sur juste la... Ouais, j'ai personne ici à la prétention de dire qu'on pourrait booker des shows. Hein. C'est un travail de malade de pouvoir écrire. Parce que si on met tout bout à bout à la WWE, les mecs, ils ont, plus de 10 heures de catch par semaine à booker, 52 semaines par an, tous les ans, sans interruption, sans vacances, depuis des années. Donc, évidemment que c'est pas simple et qu'il y a des périodes de creux. Et je vais pas dire, moi, si vous me mettiez booker, ce serait la folie. Mais il y a vraiment des trucs. Et qui plus est cette semaine, que ce soit JBL avec Baron Corbin, l'histoire du Miz, les filles. C'est tellement nul que parfois ça me fait me gratter la tête, ça me perturbe. Donc tout ça pour dire, parce que j'ai pas donné ma note, je vais donner un 2 à cette semaine, 2 sur 5. Je trouve que c'était vraiment ça mérite pas la moyenne. Ça mérite pas la moyenne. Je me suis même si je me suis beaucoup enthousiasmé sur certains segments, je me suis quand même globalement fait chier et c'est pas bon signe quand t'as un grand enthousiaste comme moi, me se fait chier.
D'accord, effectivement, là, c'est dur, c'est dur. Je pense que C'est sûr, si tu. Ah, je pense que c'est aussi une théorie qu'il fout le bordel, en fait, parce que c'était tellement ouais. grandiose qu'il a fait que par comparaison, tout le reste paraît fade et met en avant
peut-être,
les détails à jour, en lumière, tous les défauts qu'on scoltine quasiment depuis des semaines, hein, effectivement, les paresses d'écriture ou des longueurs, que ce soit entre les codes ou même dans les storylines. Écoute, pour mon flop. Je vais le donner aussi à la division féminine, mais plutôt du côté du booking de Survivor Series. Là, on est très proche hein, le pauvre traitement accordé à Dana Brooke. Mais derrière, effectivement, on en a parlé avec l'arrivée de Maya Yim et tout. C'était vraiment booké à l'envers. C'était un petit peu n'importe quoi. Mon flop, je ne peux pas ne pas le donner à Austin Theory. Pour autant, je donne un petit flop, mon top à Austin Theory. Et pour mon petit top de cœur, je vais le donner à Domino. À Domino.
C'est vrai, petit éclair de plaisir dans cette mid-card. Ouais.
Et pour ma note, eh ben écoute, moi je vais mettre un bon 3 pour cet épisode, et même 3,25 quand même. Ouais, 3,25.
Allez, soyons fous.
J'ai trouvé un épisode. On a battu le chaud et le froid, hein, malheureusement. On a montré les plus grandes. Force et les plus grandes faiblesses quasiment de ce show, en fait. Hein. Il est assez illustratif à ce niveau-là. Donc, écoute, 3,25.
Non, mais je pense que pour beaucoup de spectateurs, le bon l'emportera sur le mauvais. Hein. De toute façon, le mauvais reste sur des sujets relativement mineurs. Mais c'est vrai, je sais pas, j'avais envie de sanctionner, mais je suis
ouais, peut-être... T'as raison. Mais non, ouais. Sinon, si tu ne sanctionnes pas maintenant, on ne sanctionnera jamais, toi, parce qu'ils vont se contenter de cette médiocrité... en fond, quoi. Donc, c'est pas ça. On veut pas ça. Bon, je vous rappelle, Catch Up, c'est votre podcast qui résume tous les shows de la WWE chaque semaine. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple, c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. On est également présent sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à nous partager votre top, votre flop et votre note. Les réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Facebook, Instagram. Le lien vers notre Discord est dans la description. Je te remercie, Giscal, pour ta présence, ton enthousiasme débordant pour notre nouvelle star, Austin Theory, fan number one, Giscal.
Yes, le nouveau... Non, il veut pas qu'on l'appelle le nouveau John Cena. Donc c'est le nouvel Austin Theory, tout simplement. Le nouvel Austin Theory. Mais merci, un grand merci à toi de m'avoir accueilli pour cette association, une nouvelle fois, complètement inédite. Et ce sera avec plaisir qu'on remettra ça.
Voilà, et je le dis à l'antenne, comme ça s'est enregistré, Giscal a promis qu'il s'occuperait du montage et de la publication de cet épisode. Voilà. C'est gravé, on pourra pas dire.
On va faire que je me dépêche alors.
Oui, t'as pas le choix. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut.
Et ciao tout le monde.
Allez au boulot, feignasse.